Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
On est en studio ce matin, c'est le tout début du printemps. On est avec Gaëlle à la technique. Merci. Il y a Luce en spécial guest. Et voilà, Audrey et Céline ce matin.
Et Chico.
Pour faire une émission sur les peuples migrateurs. Les êtres vivants se déplacent. Les graines des végétaux, les spores des champignons, les organismes invisibles et visibles, ceux qui volent, qui rampent. La vie cherche des conditions pour se développer dans les cacas des oiseaux, dans les cales des bateaux, dans le vent, sous nos chaussures, dans nos ventres. Tente des collabs, dans le sens de symbiose, tente des partages d'endroits, des relations interespèces. Les êtres vivants migrent. Migrer vient de migrare, en latin, qui signifie s'en aller d'un endroit. Il y a des gens qui croient que territoire veut dire frontière et envahissement. Ces gens veulent contrôler et figer les existences parce qu'ils préfèrent écraser les autres qu'être écrasés. Ils ont peur. Ils croient que l'existence est fondée sur les rapports de domination et de séduction. Ils pillent et crient aux voleurs. Ils tuent et crient au secours. Ils magouillent pour conserver leurs privilèges et crient à l'injustice. Ils racontent des histoires d'évolution par l'agression. Ils ont des opinions qui induisent que des personnes souffrent, soient plus vulnérables aux maladies et à la mort. J'accuse ces gens, ces étrangers du cœur. C'est une expression utilisée par un mentor du sous-commandant Marcos, étranger du cœur. D'être responsable des mortes aux frontières et des mortes victimes des infrastructures humaines et du dérèglement climatique, toutes espèces confondues. Stop aux violences d'État et aux violences capitalistes. Si on se partageait la fortune de juste le mec le plus riche du monde, on pourrait chacune avoir 51,95 milliards d'euros. Et si on se partageait la thune du deuxième mec le plus riche du monde, on pourrait chacune avoir, donc tous les humains sur la Terre, hein, si on se répartissait par chacun, et chacune, 33,8 milliards d'euros. On serait tous milliardaires, quoi. Si on se partageait leur fortune. Chacun. Ouais.
Truc de dingue, pardon.
Et bon, voilà. Tout au long de cette émission, on va écouter quelqu'une qui nous raconte Alarmphone. Merci à elle. Quand on ouvre le cinquième volume, publié par Alarmphone en 2024 pour leurs 10 ans, on peut voir des affiches qui disent « Pour la liberté de circulation, ouvrez les frontières, des ferries pour tous, nous sommes tous des migrantes, migrer pour vivre, pas pour mourir, libre de partir, libre de rester. » Alors je vous lis des extraits pour introduire ces entretiens. C'est dans l'introduction du coup de ce livre de Alarmphone qui a été publié donc il y a 2 ans. Au fil des ans, notre ligne d'assistance téléphonique s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, elle est gérée par plus de 300 militantes venant d'horizons très divers. Ces membres du réseau sont confrontés à des conditions de vie et à des réalités très différentes. Nous vivons dans des dizaines d'endroits différents à travers l'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord et de l'Ouest. Nous avons créé un collectif transnational et multilingue qui s'engage à rester aux côtés des personnes qui revendiquent leur droit de circuler. Nous savons que nous sommes désormais et que nous continuerons à être une force disruptive remettant en cause le régime inhumain des frontières. Nous avons poussé les autorités à mener des activités de sauvetage lorsque celles-ci avaient choisi de laisser les gens mourir. Cela s'est amplifié grâce aux nombreuses collaborations que nous avons engagées avec d'autres militantes, nos borders, des ONG opérant en mer et sur terre, des avocates, des journalistes et même des personnalités politiques compatissantes. Collectivement, nous essayons d'empêcher tout refoulement illégal et de faire en sorte que chaque personne en détresse soit prise en compte. Actuellement, nous sommes confrontés à une vague de racisme, d'autoritarisme et d'inhumanité de plus en plus forte, aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord et ailleurs. Il est à craindre que le régime des frontières ne devienne encore plus brutal dans les années à venir. Nous ne pouvons lutter que dans le cadre d'une large alliance avec des forces progressistes. C'est pourquoi notre deuxième merci s'adresse à tous les réseaux et actrices avec lesquels nous avons coopéré au cours de la dernière décennie. Toutes celles et ceux qui font partie de la flotte civile, qui envoient des navires et des avions de sauvetage pour trouver les personnes en détresse, et toutes les personnes avec qui nous partageons cette lutte pour des passages sûrs et la justice au niveau mondial. En tant qu'AlarmPhone, nous continuerons notre travail dans des espaces contestés et nous soutiendrons les personnes qui circulent dans leur détermination. Cela restera le centre nodal de notre réseau transnational, qui vient contrecarrer un système raciste, profitant de l'exploitation engendrée par la ségrégation mondiale. Aucune frontière n'est éternelle, la solidarité l'emportera.
Salut.
Salut. Alors toi, tu fais partie d'AlarmPhone.
Ouais, ça fait 2 ans que je fais partie d'AlarmPhone à peu près, je pense. Et ben j'habite dans le Royan et on est plusieurs à faire ça dans le coin. Et mon équipe, elle est entre Grenoble et le Royan, quoi.
Ok, et du coup, AlarmPhone, c'est, on en avait un peu parlé ouais, dans une autre émission, c'est un réseau qui se passe par téléphone.
Ouais, c'est un réseau du coup transnational où on est entre l'Europe et l'Afrique. Et l'idée, c'est une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes qui essayent de traverser les frontières pour se rendre du coup en Europe. Au nord de la Méditerranée, on fait beaucoup les travails de shift, c'est-à-dire les shifts, c'est les permanences. C'est-à-dire que ça fait maintenant 11 ans que le téléphone il est allumé 24 heures sur 24 et du coup qu'on se relaie à prendre des permanences. Et plutôt les camarades du Sud, ils font du travail plus de réduction des risques en zone de départ, de transmission du numéro aux personnes concernées, et aussi de soutien aux familles des disparus. Du coup, il y a les arrivées par l'Est de l'Europe, quoi. Du coup, plutôt entre la Turquie et la Grèce, qui se décalent un peu vers le Nord maintenant, parce qu'il y a trop de répression à cet endroit-là. Les gens passent plus par la Bulgarie, à travers une forêt. Mais aussi, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que au niveau de la Méditerranée, la répression elle a été tellement forte que les lieux de départ ils sont bougés, ils ont été de plus en plus au sud du côté de l'Atlantique.
Okay.
Et en gros, il y a des départs du Sahara occidental, de la Mauritanie, du Sénégal et maintenant de la Gambie.
Ça fait que les bateaux ils partent et ils remontent l'Atlantique.
Ils remontent l'Atlantique en direction des Canaries,
ouais.
Qui sont du coup des îles espagnoles, enfin colonisées mais espagnoles. Et du coup, là, c'est des trajets... La route atlantique en 2024, ça a été la plus meurtrière. Et les estimations qui sont très sûrement en dessous de la réalité, ça disait qu'il y avait 30 morts par jour, tous les jours en 2024, sur cette route-là. Et c'est des voyages horribles, parce que c'est des voyages qui durent jusqu'à 15 jours quand les gens ils partent de la Gambie.
Ouais.
Et du coup, c'est 15 jours dans des bateaux, vraiment avec pas grand-chose. Et les gens, ils ont pas souvent des... Enfin, sur cette route-là, c'est... presque jamais, ils ont des téléphones satellites qui leur permettent de téléphoner depuis la mer.
Ouais.
Du coup, c'est vraiment des gens dont on n'a pas de nouvelles.
Okay.
Et du coup, il y a, je pense, beaucoup de bateaux qui, pour éviter la répression le long des côtes, prennent de plus en plus large dans l'Atlantique. Et il y a beaucoup de bateaux qui se perdent dans l'Atlantique. Sans jamais retrouver les Canaries, quoi. Ça, c'est pour la route atlantique, ouais. Les gens, ils partent sur des bateaux en bois, des bateaux de pêcheurs. Les gens sont... Enfin, faut s'imaginer... Les trajets en bateau, c'est dur de s'imaginer, mais c'est... Les gens, ils sont entassés comme jamais. Et vite, ils ont plus d'eau. Il n'y a pas de toilettes sur les bateaux. Du coup, faut imaginer aussi ce que c'est 15 jours sans toilettes. Et l'Atlantique, c'est pas la Méditerranée. Enfin, même si la Méditerranée peut être hyper effrayante parce qu'il y a des tempêtes et tout, l'Atlantique, c'est l'océan, quoi. Du coup, c'est des grosses vagues. C'est une immensité qui est pas la même chose, quoi.
Et c'est en urgence en fonction des infos de contrôle ou de quand les routes, elles sont praticables. navigable?
Bah, c'est plus par rapport à la météo que les gens y sortent. Oui. Mais c'est vrai que sur des si longs trajets comme ça, c'est hyper dur. Du coup, la possession de téléphones satellites est criminalisée. Okay. Au Sénégal, pardon. Et là aussi, il y a les gilets de sauvetage. Genre, les pêcheurs se font ultra contrôler pour acheter des gilets de sauvetage, ce qui fait que les gens partent sans gilets de sauvetage. Et c'est des bateaux où il y a jusqu'à 400 personnes, quoi. Du coup, c'est des bateaux où les gens sont littéralement vraiment voilà, entassés et ça dure très longtemps. La route atlantique est particulièrement trash, mais c'est une route qui a été beaucoup empruntée à la suite du durcissement de la politique, notamment en Tunisie et en Libye. Enfin, la Libye, c'est connu, les conditions de vie là-bas pour les personnes migrantes, elles sont hyper rudes, mais là, en Tunisie, c'est devenu un vrai depuis 2024 et que le président a fait son premier discours ultra-raciste là, c'est devenu encore pire. Mmh. De la Tunisie, c'est des bateaux, c'est les metal boats, des bateaux en métal, qui sont faits spécialement pour les départs de migration et qui sont genre... Enfin, la première grosse vague, ils coulent ces bateaux. Du coup, ils sont vraiment pas faits pour arriver jusqu'à Lampedusa. Et du coup... Et pareil, en Tunisie, c'est vraiment très criminalisé. Donc, les gens partent sans téléphone satellite. Mais c'est des durées de voyage beaucoup plus courtes. Normalement, au bout de 2 jours, ils sont... Si les gens, ils partent de Sfax, ils partent souvent de Sfax. 2-3 jours, tu es censé arriver à Lampedusa, quoi. Mais pareil, c'est des gens... Nous, par exemple, de Libye, les gens, ils ont des téléphones satellites. Et c'est vraiment le sésame pour savoir où les gens sont. Du coup, nous, les personnes, elles nous donnent leurs coordonnées GPS. Et nous, après, on les transmet aux autorités pour que les gardes-côtes puissent agir. Ou alors, s'il y a des bateaux d'ONG qui sont dans le secteur, qu'ils puissent y aller. Mais c'est vrai que sans GPS, ben juste, tu sais pas quoi faire parce que tu sais pas où sont les gens, quoi. Ça arrive, en fait, des fois, ça arrive qu'on galère à comprendre où sont les gens parce que déjà, là, parler avec un téléphone satellite, c'est hyper difficile. Du coup, très souvent, on n'entend pas ce que les gens disent. Il y a des fois la barrière de la langue ou des fois juste les machines GPS. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, les machines GPS, elles nous donnaient des points trop éloignés. Et du coup, c'était terrible parce que en fait, les gens, moi, ils m'appelaient et je disais, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre où vous êtes. Et du coup, ça empêche tout processus de lancer des secours.
Oui.
Et oui, on envoie des secours pour les humains. Et alors, est-ce qu'on envoie des secours pour les oiseaux, dis-nous?
Et ben, du coup, pour cette émission, on a revu ensemble le film Le Peuple Migrateur, qui m'a à nouveau beaucoup touchée, comme lors de sa sortie, il y a 25 ans.
Ça a bien vieilli, hein.
Voilà. Et moi qui regarde beaucoup de documentaires animaliers, notamment sur Arte, et il y a une voix off qui prend énormément de place aujourd'hui dans la plupart de ces films. Alors que dans Le Peuple Migrateur, très peu de mots, beaucoup d'émotions. Et je sais pas si c'est proportionnel, la question se pose. Une chose est sûre, on a vraiment l'impression d'être un oiseau. J'ai ressenti beaucoup d'empathie pour ma part quant à leur sort et beaucoup de colère contre les chasseurs, les industriels pollueurs et tous ces humains qui n'en méritent même pas le nom. On a eu envie de savoir comment font les oiseaux migrateurs pour traverser continents et océans sans jamais s'égarer. Les scientifiques ont tenté de décrypter ces capacités. Résultat, comme les grands navigateurs, les oiseaux regardent le ciel. Ces repères astronomiques leur permettent de se positionner dans la bonne direction, mais aussi de régler leur migration annuelle. Quand la durée de la lumière du jour diminue, c'est le moment de partir. Ils sont également capables de connaître le moment de la journée en analysant la position du soleil, jugeant ainsi du temps restant avant son coucher. Les individus nocturnes volent, eux, en regardant les étoiles. Les scientifiques l'ont prouvé en plaçant des oiseaux dans un planétarium et en déplaçant artificiellement les astres. Pour se guider, les oiseaux qui migrent de jour peuvent aussi s'aider de repères au sol, comme les montagnes, les rivières, les littoraux, et aussi du magnétisme terrestre. Certains volatiles ont des capteurs magnétiques dans les yeux et de la magnétite, un minerai qui agit comme un aimant, dans le bec, ce qui les aide à orienter leur vol. Ce mode de navigation est facilité au niveau des pôles, où les lignes du champ magnétique terrestre convergent et se font plus fortes. En revanche, près de l'équateur, difficile de compter sur ce GPS naturel. Aujourd'hui, malgré les aptitudes incroyables des oiseaux, Le développement humain perturbe leur migration. Les dangers viennent d'abord des constructions. Les éoliennes et les hauts buildings provoquent des hécatombes. Les lumières urbaines trompent par ailleurs les migrateurs nocturnes. S'ajoute à ça l'essor des cultures intensives qui engendre un appauvrissement du paysage. Dans ce nouveau décor, il devient difficile aux oiseaux de se repérer et de se nourrir. Et surtout, le changement climatique décale les migrations de certaines espèces dans le temps et compromet le succès de leur voyage. Résultat, selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, un tiers des oiseaux nicheurs de France métropolitaine sont aujourd'hui menacés d'extinction. Autrefois, les oiseaux migrateurs étaient synonymes d'abondance et considérés comme un cadeau du ciel. Historiquement, chassés pour diverses raisons, à une échelle raisonnable. Mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Chaque année, 25 millions d'oiseaux migrateurs sont massacrés en Méditerranée. L'Égypte, l'Italie, la Syrie, le Liban et Chypre sont en tête de cette liste noire. En France, par exemple, 300 000 pinsons des arbres tués ou capturés illégalement chaque année. C'est l'espèce la plus touchée. Vous en voyez souvent autour de vous. On trouve ensuite la grive musicienne, le rouge-gorge, le pinson du Nord et la fauvette à tête noire.
Il y en a plein ici.
Aussi. J'ai cité voilà, des oiseaux communs que j'espère que vous connaissez, que vous entendez encore, si vous avez cette chance autour de vous. Et voilà, la deuxième menace d'extinction des oiseaux migrateurs à l'échelle mondiale, c'est la surexploitation. Après la perte ou la dégradation des habitats, qui est causée par l'agriculture intensive, que j'ai déjà nommée. Les oiseaux sont capturés aussi pour être utilisés comme animaux de compagnie ou d'ornement. 37% de toutes les espèces d'oiseaux. Chassés pour être consommés, 14% environ, ou pour le sport. Je mets des gros guillemets, mais c'était écrit comme ça dans l'article. 4% pour le sport. Et nombre de ces prélèvements sont excessifs et illégaux. Il est possible qu'une meilleure application de la loi et la mise en œuvre d'une protection juridique solide, telle que celle prévue par la directive Oiseaux de l'Union européenne, ait réduit le nombre d'oiseaux tués ou capturés illégalement. Mais c'est encore trop peu. Et Céline va nous parler des plumes.
Ben oui, parce que quand on a parlé de cette émission sur les oiseaux migrateurs, moi je suis allée regarder le rapport de l'UICN. Donc ça, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature en France. Et en fait, ben voilà, ce rapport, il parle du fait que il y a beaucoup de trafic d'oiseaux rares, de toutes sortes d'animaux vivants, mais principalement des oiseaux. Et notamment, bah, comme tu le disais, soit les animaux pour qu'ils soient, enfin, capturés pour qu'ils restent vivants, soit pour leurs produits dérivés, parmi lesquels figurent les plumes d'oiseaux. Donc, c'est des éléments qui sont considérés comme des produits issus de la faune sauvage, au même titre que l'ivoire, les peaux ou les os. Du coup, il y a pas mal de parties de l'animal, donc les plumes, mais aussi le bec ou les œufs ou encore le corps de l'oiseau pour lesquels ils sont chassés. Il y a aussi un rapport sur le rôle de la France dans le commerce d'espèces sauvages, une analyse du commerce et des saisies citées. Ça, c'est un autre document que je suis allée consulter. Et du coup, dans cette synthèse, donc j'ai trouvé qu'effectivement le commerce illégal d'oiseaux constitue un phénomène mondial important, touchant donc, comme on le disait, donc autant les oiseaux vivants que les différentes parties, et que les oiseaux vivants sont principalement recherchés comme animaux de compagnie ou pour des compétitions, alors que les parties servent à l'ornement, l'alimentation ou la médecine traditionnelle. Et du coup, ce trafic a entraîné le déclin de certaines espèces, notamment des perroquets et des oiseaux tropicaux. Et en France, entre 2008 et 2017, près de 700 saisies ont été recensées concernant plus de 3000 spécimens. Et comme je le disais, voilà, le trafic porte à la fois sur les oiseaux vivants, par exemple pour les perroquets ou les passereaux, ou les plumes. Et les colibris figurent parmi les espèces les plus souvent impliquées dans ces saisies. Les plumes, notamment celles de certaines espèces comme le canard musqué, représentent une part importante des produits saisis en termes de poids, illustrant l'ampleur du commerce des dérivés d'oiseaux.
Ouais, et info dernière minute, vu hier dans les infos, en Seine-Saint-Denis, il y a eu une prise record par l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité, de chardonnerets élégants, des milliers d'individus. Toujours pareil, hein, pour l'ornement, enfin parce qu'ils ont des belles plumes et qu'ils chantent super bien, donc c'est toujours ceux-là qui sont touchés, et ceux-là, ils sont gravement menacés. Donc voilà, c'est dans l'actualité récente. Mais je voulais vous parler d'un autre superbe oiseau qu'on appelle le Relier d'Europe. Et le Relier, en fait, il a un plumage incroyable, beaucoup de bleu, d'orange, voilà, et il est assez rare.
Oui, moi j'ai souvent, j'ai mon téléphone avec l'application Merlin Bird là, pour m'entraîner à reconnaître le chant des oiseaux et à qui et quel chant, mais je ne l'ai pas encore entendu lui.
Comment t'as dit l'application ?
Merlin Bird.
Merlin,
on dit.
Ça s'appelle Merlin en français. Excusez-moi.
Je féminise tout, c'est pour ça.
Ouais.
Ou tu anglicises tout.
Donc on va l'écouter, c'est ça ?
Ouais, on écoute un petit son du Relier d'Europe.
Et voilà, trop stylé le Relier. Et pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai appris dans l'Annie Schul, qui est la revue de la LBO du Royan-Vercors, pour celles qui ne connaissaient pas. Donc c'est un article de Sylvie et Bernard Frachet de la LPO, que je remercie. Et ils nous apprennent qu'en fait, il y a quelques cas de nidification de ce Relier qu'on vient d'écouter, en Drôme, et notamment à Vassieux, en plein mois d'août. Il a été repéré l'été dernier. Normalement, ils s'installent sur le pourtour méditerranéen pour se reproduire. Et en fait, les oiseaux remontent d'Afrique par une voie migratoire qui est située un peu plus à l'est. Et ils vont s'installer en Europe de l'Est sans passer par la France pour effectuer la reproduction. Sauf qu'une partie de ces oiseaux a décidé de redescendre par une autre route. Ils arrivent en France depuis le sud de l'Allemagne et la Suisse, par le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie. Et on les retrouve alors en Isère et en Drôme. Faune France a donc constaté sa présence cet été. Il traverse le Vercors dès le mois d'août pour rejoindre les populations du sud, mais ils font une halte pour se nourrir et reconstituer leur réserve de graisse pour poursuivre le voyage. Et on constate qu'ils stationnent dans un habitat riche en orthoptères. Tout le monde sait ce que c'est ?
Non.
Okay. Criquets et sauterelles essentiellement. Voilà. Je suis aussi passionnée d'insectes, n'hésitez pas. Ils pourront donc ensemble regarder leur quartier d'hiver en Afrique subsaharienne. Donc c'est un long voyage aussi pour les Reliers d'Europe. Et les adultes sont accompagnés des jeunes de l'année. Espérons qu'ils survivent à ce voyage. Voilà, et je voulais donc juste finir sur la directive oiseau, là, qui est un dispositif assez important mais hyper institutionnel, et voilà, qui estime que, compte tenu des menaces, les États membres de l'Union européenne doivent engager des mesures pour conserver toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur les territoires européens. Et il faut savoir qu'il y a des espèces d'oiseaux particulièrement menacées, et pour ça, les États membres devraient créer des zones de protection spéciale, ZPS. Et il y a aussi les ZSC, zones spéciales de conservation. Donc ça, c'est la directive Habitat Faune Flore qui forme le réseau européen Natura 2000. Ça, vous avez peut-être entendu parler de ces sites écologiques protégés. Il y en a pas mal autour de nous. Et cette directive, elle reconnaît par contre le droit de chasse sur les espèces dont l'effectif, la distribution et la reproduction le permettent, dans les limites normalement, de la compatibilité avec le maintien de la population de ces espèces. Bon, mais vous savez que voilà, ce n'est pas du tout respecté. Et normalement, on interdit la destruction des oiseaux, mais aussi des nids, des œufs, des habitats, la vente et le transport des oiseaux vivants ou morts, ou d'une partie, comme les plumes. Malheureusement, bah, voilà, ils sont toujours chassés et menacés par, de tous les côtés. Et ça m'a donné envie de vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Oiseau rare. Et le duo, c'est Théodora et Juliette Armanet. J'adore chacune, donc ensemble, à vous deux.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies. Dis-moi ce que tu... Dis-moi ce que tu fais quand tombe la nuit. Dis-moi ce que tu...
Dis-le, dis-le, oui. Je n'ai qu'une seule vérité. Des mensonges, j'en ai déjà dix. Déjà dix. Si c'est non ou oui, il n'y a qu'une seule vérité. Je ne ferai plus de ce
prix. J'en ai perdu mes mots. J'en ai perdu mes mots.
J'ai un
Amazonie, jamais venu. Ta mort à personne l'a jamais vu. Comme serpent qui n'a jamais aimé. Ce nouveau toi, je l'ai jamais eu. Dis-moi tout ce que t'as jamais dit. Dis-moi ta vie. Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies. Dis-moi ce que tu.
Dis-le, dis-le, oui. Je me perds dans tes pensées. Y'a plus de bronches pour mon.
J'en ai perdu.
On vient d'écouter Les Oiseaux Rares avec Théodora et Juliette Armanet. Et moi, quand on a parlé des oiseaux migrateurs, forcément, mon cœur alsacien s'est réveillé en disant « Mais la cigogne, mais donc, est-ce que je ferais pas un petit big up à l'Alsace ?» En parlant de cette cigogne blanche, Cicogna, elle s'appelle. C'est un grand oiseau échassier, reconnaissable à son plumage blanc et noir, ainsi qu'à son bec et ses pattes rouges. Elle mesure entre 90 et 115 cm et possède une envergure pouvant atteindre plus de 2 mètres. Et contrairement au héron, elle vole le cou tendu et chasse en marchant dans des espaces ouverts plutôt qu'à l'affût. Elle consomme principalement des insectes, mais aussi des mollusques et des petits mammifères, et elle vit dans des milieux ouverts comme les prairies, les champs et les zones humides qui facilitent sa recherche de nourriture. Bon, ça c'est pour le portrait de la cigogne. Et puis aussi, elle niche en hauteur, souvent dans des arbres et des bâtiments. Elle est connue notamment pour mettre ses nids dans les églises alsaciennes, sur le toit des églises. Et la femelle pond en moyenne 4 œufs incubés par les deux parents pendant environ un mois. Et les petits sont nourris par régurgitation et prennent leur envol après presque 2 mois. Et en fait, les cigognes, moi, ce que j'ai bien aimé là, en cherchant un peu, c'est que c'est des animaux grégaires qui vivent souvent en colonie. Et elles construisent des grands nids de branchage, généralement en hauteur, comme je le disais, donc dans les arbres ou sur les structures humaines, comme les églises. Et les cigognes, on les trouve principalement en Europe, en Afrique et en Asie, bien qu'une espèce vive en Amérique du Sud. Et certaines d'entre elles seulement sont migratrices et parcourent de longues distances en utilisant les courants d'air chaud pour planer. Elles évitent de traverser de grandes étendues marines et passent donc par des zones étroites comme le détroit de Gibraltar. Elles quittent les quartiers d'été au mois d'août. Elles pratiquent un vol plané et du coup, les populations d'Europe occidentale, elles suivent les terres et les lignes de côte pour atteindre et franchir la Méditerranée au niveau du détroit de Gibraltar. Elles survolent ensuite le Sahara pour gagner enfin les quartiers d'hiver au sud du Sahel. Et après avoir pris le soleil en parcourant tous ces pays, elles refont le trajet en sens inverse pour regagner au mois de février son lieu de nidification. Ça lui fait donc 6300 km parcourus chaque année. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'espèce a fortement décliné au XXe siècle à cause de la disparition de son habitat. Donc c'était un peu ce que disait Audrey tout à l'heure sur les questions de migration des oiseaux. Et aussi à cause des lignes électriques et de l'usage de pesticides. Et puis quand même, je pouvais pas terminer cette petite chronique sur la cigogne sans parler de la culture populaire, puisqu'elle a une place importante dans la culture populaire alsacienne. Elle est associée à la naissance des bébés et constitue également donc un symbole de l'Alsace. Et donc, si vous connaissez pas cette légende, c'est qu'il s'agit de la légende du Kindlesbrunnen, né en Alsace, selon laquelle, sous la cathédrale de Strasbourg, il y avait autrefois un lac. C'est là que barbotaient et s'amusaient les âmes des enfants qui attendaient de venir au monde. Sur ce lac vivait également un gnome qui passait son temps à naviguer sur une barque argentée. À l'aide d'un filet d'or, il attrapait délicatement les âmes des bébés, il les donnait ensuite à la cigogne et celle-ci n'avait plus qu'à les déposer dans les berceaux. Voilà, donc la cigogne d'Alsace, elle symbolise la fertilité et elle symbolise aussi la résurrection et la chance. Donc si on en croise une, c'est plutôt de bon augure pour l'ensemble des Alsaciens et des Alsaciennes. Et elle apporte la chance dans les domaines de la fertilité, de la fidélité, de la richesse, de la santé. Et voilà, ça lui vaut ce symbole de protection contre la foudre aussi et de bénédiction de la ville où elle s'installe. Et pour la petite histoire, il y a quand même, dans la version actuelle du truc, en Moselle, la cigogne blanche Mélodie a pondu son premier œuf le 17 mars et ça marque le début de la 10e saison de Télé-Cigogne. Alors eux, ils ont mis une webcam installée sur le toit de la mairie et qui permet de suivre en direct la vie d'un couple de cigognes. Depuis 10 ans, habitants, habitantes et internautes observent le quotidien, les habitudes et la reproduction. Voilà, on peut se dire que c'est peut-être un peu voyeuriste comme manière de faire, et en même temps c'est un truc d'observation qui fait le symbole de ce village là qui s'appelle Saralbe en Moselle. Voilà pour la cigogne.
Et alors une petite transition sur la phonétique des mots, on va écouter la suite de l'entretien avec la personne d'Alain Fon, et donc on va parler dans cet entretien des zones SAR. Opération SAR, c'est Search and Rescue, c'est donc recherche et secours, des opérations de recherche et de sauvetage. La Méditerranée, comme elle va vous l'expliquer, est divisée en zones nationales de recherche et secours. Si un bateau se trouve en détresse, le MRCC concerné est obligé de lancer une opération afin de sauver ce bateau. Et le MRCC, donc, qu'on peut dire, vous allez pouvoir entendre aussi des lettres qui sont RCC ou JTCC, toutes ces petites lettres, ça veut dire que c'est de la coordination des secours en mer. C'est l'organisme principal de recherche et de sauvetage qui est responsable du coup de la coordination et du contrôle des opérations de sauvetage. Et donc, il y a des gens, vu que les organismes liés aux États n'étaient pas suffisamment réactifs pour aller pas sauver les gens à plein de moments. Il y a des personnes donc qui se sont organisées en civil, et donc en 2020, il y a un MRCC civil qui a été créé avec des membres de différentes organisations de secours en mer afin de répondre au niveau des filles et de consolider un réseau de solidarité pour soutenir les personnes dans leur voyage.
Il y a un peu une alliance, coalition de plein de forces qui sont pour la liberté de circulation et contre les morts aux frontières, qui s'appelle la Civile MRCC. MRCC, c'est le nom des gardes-côtes souvent. Et du coup, là, c'est la Civile MRCC. Et du coup, c'est un peu une coalition des bateaux de sauvetage. Et maintenant, il y a des avions. Et okay. Du coup, les avions, c'est hyper précieux parce que c'est un peu nos yeux au-dessus de la Méditerranée, en tout cas pendant la journée.
Ouais.
Parce qu'il faut se dire aussi que Frontex, ils ont leurs drones qui font des trajets tout le temps les mêmes. C'est des trucs, ils partent de Malte et le drone de Frontex fait toujours le même trajet, du coup, là où il y a beaucoup de gens qui passent. Et du coup, ils repèrent les bateaux, et ça, on le sait, ça, ces coordonnées, ils informent les gardes-côtes libyens.
Okay.
Quand ils voient des bateaux.
Du coup, ça veut dire que les gardes-côtes libyens vont récupérer les gens, les ramènent en Libye.
Ouais. Et c'est prouvé que les gardes-côtes libyens sont des tortionnaires qui battent les gens, qui, en vrai, je suis désolée pour la violence des propos, mais qui violent les femmes.
Ouais.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que... je peux finir sur la Libye, mais du coup, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que avant, en fait, la mer, elle est séparée en zone SAR. C'est les zones de search and rescue.
Okay.
Et du coup, dans ces zones-là, pour avoir une zone SAR, il faut avoir des gardes-côtes qui sont opérationnels 24 heures sur 24 et qui parlent anglais, et des bateaux de sauvetage. Et la Libye n'avait pas de zone SAR. Ce qui voulait dire que la Méditerranée était séparée avec la zone SAR de l'Italie et la zone SAR de Malte, qui était énorme. Mais ce qui veut dire que les gens, dès qu'ils étaient hors des eaux libyennes, ils pouvaient appeler, et la loi obligeait, même s'ils ne le font pas, les gardes-côtes européens à venir les sauver. Du coup, l'Europe a très fort poussé à ce que la Libye crée sa propre zone SAR. Et du coup, maintenant, la zone SAR libyenne, elle monte jusqu'au 34e degré nord. Du coup, elle est vraiment au milieu de la Méditerranée. Et sauf que, en fait, ils ne répondent pas aux obligations légales. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas anglais. En fait, la Libye, c'est une zone qui est en guerre. Donc, leur poste de contrôle, il est dans l'aéroport de Tripoli. Mais en fait, c'est la guerre. Du coup, c'est des milices qui prennent le dessus les unes les autres. Donc, en fait, c'est impossible d'avoir un numéro. Nous, quand on essaye d'appeler les gardes-côtes libyens, on appelle 20 numéros. La plupart répondent pas. Les autres parlent pas anglais. Enfin, ils sont injoignables. Et du coup, ben, c'est vraiment une création de l'Europe pour permettre aux Libyens, enfin, en plus de leur donner du fric pour qu'ils aient des navires, ils ont des navires de ouf, les Libyens, qui vont hyper vite pour aller intercepter les gens. Et du coup, bah là, l'Europe donne de l'argent à ces gens-là pour sous-traiter la gestion des frontières, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais j'avais pas fini sur le bateau.
Ouais.
Sur les avions, que du coup, il y a aussi des avions camarades qui sont au-dessus de la Méditerranée et qui volent et qui sont nos yeux, quoi. Qui permettent d'assister aux interceptions illégales. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que les Libyens, ils montent au-dessus de leur zone pour aller intercepter des bateaux parfois. Enfin, ça sert à documenter plein de trucs, quoi.
Mmh.
Et c'est surtout qu'un bateau, c'est très lent à se déplacer. Sauf les bateaux des gardes-côtes, mais les bateaux des ONG sont très lents à se déplacer. Et du coup, quand ils ont 6 heures de navigation, bah, des fois, c'est aussi pratique d'avoir un avion qui va en 2 heures, qui voit qu'il y a en effet un bateau avec des gens à cet endroit-là. Et du coup, là, le bateau peut y aller, quoi.
Mmh.
Voilà, c'est un peu ça, de se coordonner tout le monde pour essayer que bah, y ait le moins de morts possible, finalement.
Ouais, c'est ça, se coordonner 24-24 depuis, t'as dit, 11 ans, là, pour qu'il y ait le moins de morts possible.
Ouais, c'est ça. Dans la civile MRCC, il y a, j'ai l'impression, beaucoup de bords politiques différents. Il y a beaucoup d'humanitaires, des gens qui font ça, voilà. Genre, à l'Arme Fun, quand même, je pense qu'on est caractérisé parce que... Enfin, politiquement, nous, on est contre les frontières, pour la liberté de circulation, contre le régime des visas.
Ouais.
On trouve pas ça normal que nous, on puisse aller partout dans le monde et que les gens, ils puissent pas juste se déplacer. Et on est persuadé que si tout le monde avait le droit de se déplacer, enfin, ce serait beaucoup mieux, quoi. Et du coup, on est là aussi pour dénoncer que, en fait, les trucs de militarisation, ça n'empêche pas les gens de passer. Enfin, c'est toujours la même chose. Ils ont l'impression qu'en mettant des murs toujours plus haut, les gens, ils vont s'arrêter de passer, alors que... En fait, juste les gens, ils continuent à passer, juste il y a plus de morts, quoi.
Coucou les noctules, eh ben, c'est Anaïs. Ben, je ne peux pas être en studio avec vous aujourd'hui, mais voilà, je vous ai fait un petit enregistrement de mes petites découvertes pour cette émission. Alors, tout est parti d'un week-end à Grenoble, chez une copine qui m'a présenté un jeu en me disant « Ah ben, peut-être ça pourra te servir pour ton émission de radio. » Et ce jeu, c'est Mariposas. Et elle me dit, en plus, il a été fait par une meuf. Voilà, voilà. Alors, Mariposas, ça veut dire papillon en espagnol. Et c'est un jeu qui s'inspire de la migration des monarques, les papillons monarques. Alors là, je fais pas du tout dans le local, hein, c'est des papillons qui vivent en Amérique du Nord et centrale, et c'est des très beaux papillons d'environ 10 cm qui ont une couleur orange veinée et bordée de noir avec des petites touches de blanc dans le noir. Ils sont très beaux. Et ils ont quand même une histoire assez incroyable. Enfin, leur migration est assez incroyable et d'ailleurs encore assez mystérieuse pour la science. Donc j'avais envie de vous en parler. Du coup, ils partent, donc ils vivent entre le sud du Canada et le Mexique. Et ils vont partir à la fin de l'été, ils vont partir pour migrer. Donc ils partent du Canada pour migrer vers le Mexique, dans les montagnes du Michoacán, l'état du Michoacán. Et ils vont parcourir environ 4000 voire 4800 km pour certains, ceux qui partent du plus loin. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils sont à peu près sur toute la largeur des États-Unis, du nord des États-Unis, du sud du Canada. Et par contre, ben là où ils vont hiverner au Mexique, c'est une toute petite zone par rapport à ça, quoi. C'est vraiment assez impressionnant. Quand on voit la carte, du coup, moi, je l'ai vu sur un site qui s'appelle namonarque.org. Et donc, pour vous expliquer plus en détail, je vais vous lire un peu de ce site. Du coup, il y a les monarques de première génération qui sont les descendants des papillons qui hivernent. Ils naissent dans le nord du Mexique. et le sud des États-Unis et s'envolent vers le nord. D'accord, ça, c'est ceux là, c'est on fait la migration du sud au nord, donc quand on part de la zone d'hivernation qui est au Mexique. Les monarques de deuxième génération, ils naissent dans le centre des États-Unis et ils migrent vers le nord. Parce que, oui, j'ai pas précisé, mais la descente, c'est en une génération et la remontée, c'est en trois générations. C'est un peu fou quand même, hein? Les monarques de troisième génération, ils naissent dans la partie septentrionale du territoire de l'espèce, c'est-à-dire, voilà, sud du Canada, nord des États-Unis. S'ils émergent suffisamment tôt, ils peuvent produire encore une nouvelle génération qui va vivre sur l'été. Et autrement, ils migrent vers les sites d'hivernage au Mexique. Et les monarques, du coup, de quatrième génération, eh ben, ils vont vivre super longtemps, eux, parce qu'ils vont vivre l'hivernation. Donc, ils vont vivre, enfin, super longtemps pour un papillon, ils vont vivre 9 mois. Ils entrent en diapause reproductive au Mexique. Jusqu'à des sites, voilà, jusque là où ils vont hiverner, et après les 4 mois d'hivernation, ils vont s'envoler vers le sud des États-Unis, où ils pondent des œufs et ils produisent la première génération dont on a parlé tout à l'heure, qui vont du coup naître dans le nord du Mexique et le sud des États-Unis et s'envoler vers le nord. Et puis là, une autre, donc la deuxième génération, puis la troisième, bref, voilà. Et la troisième ou quatrième qui redescend vers le sud. J'espère que vous avez tout bien compris. Et donc, voilà, c'est assez fou. Et ils prennent toujours les mêmes chemins. Et ça fait, en fait, ils ont des endroits de pause où ils vont se concentrer. Et là, ils vont être hyper nombreux. Et ils sont tellement nombreux qu'on les entend voler, apparemment, d'après les sites que j'ai lus sur Internet. Et on les entend voler, et surtout il y en a plein qui meurent au fur et à mesure, donc on va retrouver des lacs avec des nuées de papillons morts, c'est assez spécial quand même. Et puis là où ils s'arrêtent au Mexique, les zones où ils vont hiverner, en fait ils recouvrent complètement la végétation. Comme ils sont super nombreux, concentrés à un endroit assez petit, ben ils vont tout recouvrir. Et du coup, au fur et à mesure de leur redescente, là, eh ben, ils vont polliniser des milliers d'espèces de plantes au passage. Mais du coup, il y a une plante dont ils ont vraiment besoin, c'est l'asclépiade. Et c'est une plante dont ils se nourrissent et sur laquelle ils déposent leurs œufs. Et cette plante, elle est mise à mal par les pesticides. Mais malgré cela, la population de monarques a doublé en 2025 grâce à la météo. Et à l'effort de conservation aussi qui est fait dans ces zones d'habitat. Ça, c'est WWF qui nous le dit. WWF qui nous le dit. Voilà. Voilà pour ma première découverte. Allez, à plus.
Et oui, alors, donc il y a le papillon monarque, mais on peut faire un gros big up au papillon qui s'appelle la belle dame, qui est plutôt donc par chez nous, qu'on connaît très bien. C'est un papillon orange, avec un peu de noir et un tout petit peu de blanc. Et c'est pareil, c'est un tout petit papillon que vous voyez chaque année revenir au printemps et qui fait lui aussi 9000 km aller et donc 9000 km retour en 6 générations. Et donc c'est pareil, il part d'Afrique du Nord, du Nord-Ouest, à la fin de l'hiver, tchouk tchouk tchouk, le pourtour méditerranéen, l'Europe centrale, l'Europe du Nord... au printemps, et puis jusqu'aux régions polaires, et en milieu d'été, touk touk touk, qui repart vers le sud. Et voilà, 6 générations, des petits insectes qui font 75 mg, et qui peuvent parcourir 500 km en une journée. C'est la distance entre le Mexique et le Canada. Et voilà, des fois ils volent hyper haut, à plus de 1000 mètres d'altitude, et des fois à 50 km/h. Des petits bolides en fait. Ils ont l'air de rien, mais c'est des petits bolides. J'en profite pour faire un petit big up qui n'ont rien à voir aux petits batraciens qui ont pondu leurs œufs dans les flaques et dans les rivières du Royan. Pareil, j'espère que leurs petits œufs pourront se développer et naître. On va écouter donc un autre petit bout d'entretien à propos de la criminalisation des personnes qui facilitent les déplacements. C'est la question de la confusion quelquefois entre les réseaux de passeurs, la criminalisation des réseaux de passeurs et les personnes qui notamment conduisent les bateaux ou aident les personnes qui se déplacent. Et donc je voulais juste vous lire un tout petit passage de toujours ce même livre d'Alarmphone avant d'écouter l'entretien. Il s'agit clairement de rejeter la responsabilité des décès à la frontière et de la dangerosité des routes migratoires sur celles et ceux qui défient les frontières, plutôt que sur celles et ceux qui les créent, comme cela a été formulé récemment dans un magazine d'un collectif qui lutte contre les morts aux frontières. Ça dit « pas de Frontex, pas de passeurs. Sans le régime frontalier violent de l'Union européenne, pas de marché pour les entreprises. Souvenons-nous de l'été de la migration en 2015 sur les routes des Balkans. Le marché des passeurs s'est effondré dès que les personnes ont pu voyager en bus ou en train. Souvenons-nous des personnes réfugiées venant d'Ukraine en 2022. Aucun réseau de passeurs n'est né car les personnes étaient libres de se déplacer et même de choisir où elles voulaient vivre. Les passages sûrs ne sont pas une utopie, c'est juste une décision politique et nous savons que demain, tous les trafics et même la mort en mer pourraient devenir de l'histoire ancienne si le régime des frontières et des visas était aboli et si tout le monde obtenait la liberté de circulation.
Tous les bateaux qui partent de Méditerranée centrale, du coup de la Tunisie ou de la Libye, il n'y a aucun passeur dans les bateaux. Il y a des gens qui payent moins cher leur ticket, qui ont moins d'argent et du coup qui se retrouvent à conduire des bateaux.
Ok.
Et du coup c'est des victimes encore plus. Hein. Et là, on voit aussi des trucs de schéma raciste se reproduire. C'est souvent les personnes noires qui conduisent les bateaux, quand le reste du bateau, c'est soit des personnes du Moyen-Orient ou... Enfin, pas des personnes noires, quoi. Et du coup, ben, ces personnes qui sont accusées d'avoir... En fait, quand les gens, ils arrivent en Europe, le premier truc qu'ils subissent, c'est des interrogatoires de la part de Frontex. Et là, ça y va, tout va. C'est promesses de papier contre 10 mois qui conduisaient le bateau. Et plein de menaces comme ça. Et du coup, les gens, bah, ils sont pas du tout armés. Enfin, ils ont pas du tout les armes pour se défendre aussi contre des interrogatoires qui leur promettent le sésame. Et du coup, les personnes qui se font accuser d'être capitaine, bah, se font mettre en tôle. Alors, ça dépend. Il y a plein de trucs différents. Par exemple, en Espagne, les personnes qui se font accuser d'être capitaine, elles peuvent passer... souvent, elles passent énormément de temps en préventive. Et au bout de, je crois, quand même plusieurs années de préventive, genre peut-être 2 ans, on leur propose des... voire même un peu plus. On leur propose des deals, quoi. On leur dit, si tu dis que t'es coupable, tu sors dans 1 an, quoi. Et si tu dis que t'es... Et si tu dis que t'as pas conduit ce bateau, tu sors dans 5 ans, enfin, des trucs terribles, quoi. Du coup, la plupart des gens acceptent de dire qu'elles ont été capitaines, qu'elles ont conduit le bateau. Et après, du coup, elles finissent leur peine, et après leur peine, elles sont, en Espagne en tout cas, c'est, elles peuvent pas se faire régulariser pendant encore 5 ans. Enfin, c'est des trucs, en Grèce, c'est les champions du monde de la criminalisation des capitaines. Genre, il y a des gens, c'est horrible, parce que, en fait, plus c'est des trajets où il y a eu des morts, plus les gens ils sont accusés d'avoir fait des homicides involontaires, ce qui est genre horrible. Et du coup, il y a des gens qui se retrouvent avec des centaines d'années de prison, parce que des fois il y a des naufrages où il y a des centaines de morts, et donc du coup tu multiplies. Enfin, tu sais, c'est des... Mais il y a un super collectif qui s'appelle Captain Support, qui est né, qui est du coup en Grèce, en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre, et qui fait du soutien juridique aux personnes qui ont été accusées d'être capitaines, parce qu'il y en a aussi en France. Et du coup, proposer des avocats, proposer des traductions, parce que souvent c'est des personnes qui n'ont pas accès à avoir des traducteurs, du coup qui comprennent pas ce qu'elles signent aussi. Et voilà, c'est plein de trucs. Et du coup... selon les législations des pays, et puis enfin voilà, la France c'est pas un énorme pays où les gens arrivent directement. Plutôt du coup, les gens qui sont accusés d'être capitaines, c'est des gens qui ont essayé de traverser pour aller en Angleterre. Et mais il y en a quand même dans les prisons françaises. Je pense que c'est au moins une dizaine de personnes, mais ça, je suis pas sûre du chiffre. Mmh. Voilà.
Thank you. pas qui bannisse qui ou ne ria isangose les ouen arden gingo koa ke ba qui bannisse qui ou ne ria isangose les ouen arden
D'écouter le groupe Sur le Fil, un morceau qui s'appelle Egoac, qui veut dire les ailes. C'est un grand chant populaire basque qui dit « Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi, il ne serait pas parti. Mais voilà, il n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais. » Sur la continuité des migrations et des déplacements, on va parler... D'autres petits êtres qui se déplacent.
En effet, je pense que vous savez évidemment que l'humanité migre depuis la nuit des temps, ainsi que les oiseaux. Mais que savez-vous à propos des insectes ?
Les papillons, on en avait parlé.
Voilà, déjà, vous avez les papillons. Peut-être vous avez entendu parler du criquet pèlerin, parce qu'on connaît sa migration depuis l'Antiquité, qui est assez spectaculaire d'ailleurs. Mais il faut savoir que d'autres insectes migrent, les syrphes, qui est un peu dans la famille des abeilles, des punaises, des coccinelles et des libellules. Mais il y a des caractéristiques qui semblent communes à la plupart des grandes migrations d'insectes. Déjà, la migration se fait rarement en solo, vu les risques. Elle se fait en groupe. Elle est déclenchée par des phénomènes d'horloge biologique, qu'on appelle aussi horloge circadienne. C'est-à-dire par rapport au temps d'ensoleillement, aux températures, etc., qui impliquent donc des stimuli que ressentent les insectes, la température et la photopériode. Et la physiologie des individus change en vue de la migration. La fonction locomotrice est dopée et des fonctions végétatives comme l'alimentation et la reproduction sont pour partie ou totalement inhibées. Les paramètres physiologiques et écologiques de la migration dépendent aussi de l'environnement et des paramètres phénotypiquement modifiables pour s'adapter aux conditions en vigueur. Donc la migration donne un peu des super pouvoirs aux insectes et ça c'est cool quand même. Ces insectes migrants accumulent des réserves d'énergie avant le départ. Et dans le cycle vie de l'insecte, la migration intervient généralement avant la reproduction. Les individus migrants ont une valeur élevée en termes de reproduction et de survie de l'espèce. Leurs capacités de colonisation sont peu ou prou maximales. Les migrants ont un fort potentiel d'accroissement futur de la population. Encore un super pouvoir. Les migrants occupent souvent des habitats temporaires inhabituels pour leurs espèces, en mode squat. Voilà, on a longtemps pressenti comment certaines espèces de libellules étaient migratrices également, sans savoir sur quelle distance ni quels itinéraires. Des chercheurs des universités de Princeton ont récemment montré que les libellules migrent un peu comme les oiseaux, pouvant parcourir plus de 100 000 km par semaine par beau temps et sans vent. Les libellules étant apparues il y a au moins 285 millions d'années, soit presque 140 millions d'années avant les oiseaux, peut-être ont-elles été pionnières en matière de migration aérienne. J'avais aussi envie de parler des baleines. Comme vous avez compris dans cette émission, on alterne un peu les sujets lourds et légers. Donc voilà.
En même temps, les baleines, c'est pas très très léger.
C'est pour ça. Mais j'étais dans les lourds insectes avant, donc je peux passer à un sujet plus lourd maintenant. Et bah, la baleine, on oublie parce que c'est un mammifère, mais elle migre et elle peut parcourir des distances impressionnantes jusqu'à 10 000 km. La cause de ces déplacements est loin d'être clairement expliquée. Les scientifiques ont entrepris de nombreuses études, les suivant dans leur périple par drone ou satellite. Donc oui, là on est loin hein, par rapport au peuple migrateur aussi qu'on a revu. On se demandait comment ils avaient fait pour être aussi proches des oiseaux et tout ça dans ce film. Et en fait, c'était à base d'ULM à l'époque quand même. Saluons leur exploit. Donc là, c'est avec des drones qu'on suit les baleines et des satellites. Et on en est encore qu'au stade des hypothèses aujourd'hui. J'avoue, c'est ce mystère un peu voilà, qui m'a donné envie de vous en parler. Donc le phénomène est observé dans les deux hémisphères de la planète et il se produit différemment selon les espèces. Celles qui migrent, c'est surtout les baleines à fanons. Vous voyez ?
Non.
Fanon, ah, il y a oui. Le rorqual, la baleine à bosse, la baleine bleue, la baleine grise. Donc en général, ils mangent des tout petits trucs comme des krill ou des crevettes. Et en fait, les baleines à dents, ça, c'est les cachalots, les bélugas, les orques. Elles sont plutôt nomades ou sédentaires, elles ne migrent pas. La migration se fait parfois de manière solitaire ou en groupe. Ça dépend des espèces et des conditions. Et les baleines migrantes s'installent pour se nourrir dans les eaux froides. Puis elles migrent vers les eaux chaudes pour y mettre bas. Toutefois, l'explication de la migration pour mettre bas dans un milieu qui serait plus favorable aux bébés ne tient pas, car la thermorégulation en eau froide n'est pas insurmontable pour les jeunes baleineaux. Mais non. Aussi, parmi les hypothèses explorées, il y a l'idée que les adultes se déplaceraient avant tout pour protéger leur progéniture des prédateurs. Bref, on ne sait toujours pas. Et bien sûr, puisqu'on est dans l'émission des noctules, on n'oublie pas les chauves-souris. Parce qu'il y en a aussi qui choisissent d'hiberner pour passer l'hiver, mais il y en a qui vont migrer. Et notamment la noctule commune, la noctule de Leisler, mais aussi la pipistrelle Neonatusus, la sérotine bicolore, qui suivent ainsi un axe européen nord-est vers le sud-ouest. L'étude de leur déplacement se fait en suivant des sujets baillés. Et une étude réalisée en 2016 a suivi une pipistrelle depuis l'Allemagne jusqu'en Franche-Comté, 660 km plus loin, pour l'exemple. Il y a un autre animal qui m'a toujours fascinée depuis un voyage en Laponie, il y a quelques années déjà. Eh bien, les rennes. Donc les rennes, c'est de loin comme ça l'image un peu d'une harde de robes argentées, de plastrons blancs et de grands bois dont l'arborescence se mêle aux étendues de la toundroise suédoise. Avant la nuit arctique, les rennes descendent dans la plaine pour rejoindre leur pâturage d'hiver. Cette transhumance est empreinte de sacré pour les éleveurs samis, donc c'est le peuple autochtone de Laponie, sur laquelle pourtant pèsent maintes menaces, toujours le réchauffement climatique, l'exploitation forestière et minière, les éoliennes, mais aussi les gloutons, ces mammifères carnivores de la taille d'un petit ours. L'automne venu, les rennes abandonnent la montagne aux tétras, guidés sur la bruyère par leurs propriétaires de la minorité Sami, la seule autorisée en Suède à élever des rennes. À Dikanes, les éleveurs, en quad ou en motoneige, hein, oubliez les fantasmes à l'ancienne, prépare la transhumance en menant des milliers de cervidés jusqu'à un vaste enclos. Là, les fins sont marquées, les adultes triés, les plus gras envoyés à l'abattoir, les autres partent vers des terres boisées, riches en lichen, un élément très précieux de leur alimentation. À la manœuvre, Margaret, la trentaine, lasso tournoyant au-dessus de son bonnet fourré, elle donne des ordres avec à la ceinture l'indispensable couteau qui lui sert à tailler la marque, titre de propriété, dans l'oreille des bêtes. C'est une vie de peine, mais c'est la plus belle qui soit. De cette vie dépend mon identité. Quand dans la montagne on voit naître un fond, on oublie tous les ennuis, assure-t-elle. En fait, je vous ai pas dit, mais si j'ai voulu aborder ce thème, c'est aussi grâce à un docu Arte, Norvège, princesse des reines, qui raconte la vie d'une butch lesbienne championne à la course d'attelage des reines. Voilà le point de départ. Et donc là, on est dans le Nordland, la transhumance, voilà, qui suit donc les reines à travers les étendues sauvages. Pareil, il y a plein de périls mortels qui guettent les reines. Hein. Donc, il y a déjà la moitié du troupeau qui est décimé parce qu'il y a une mortalité élevée des bébés, des fans, victimes du froid, des maladies, des prédateurs. Parce qu'on a parlé des gloutons, mais il y a aussi des ours, des loups, des lynx et des aigles qui font des ravages chez les petits. La transhumance et l'errance des reines en montagne, comme en plaine, donc se heurtent au réchauffement qui fait alterner des périodes de froid et de redoux, qui gèlent le sol, du coup les reines ne peuvent plus manger leur lichen. Pour les nourrir, il faut alors compléter avec du fourrage, qui est très onéreux. Les bêtes subissent aussi les affres de la modernité. Elles sont effrayées par le vacarme des éoliennes, les machines des bûcherons et l'extraction minière. Les éleveurs multiplient d'ailleurs les procès contre ces entraves à leur activité. Chaque génération d'éleveurs a son calvaire. Pour celle de mon père, c'était la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, dont les retombées ont empoisonné les mousses, lichen, rappelle fataliste Margaret. 30 ans après, des reines sont toujours radioactives dans l'Arctique, rendez-vous compte. Et je terminerai par une info culturelle, c'est une expo de Kate McGuire au Palais idéal du facteur cheval à Haute-Rive. Et là-bas, on peut voir des tableaux de plumes. C'est incroyable. Elle a rassemblé, nettoyé, trié des milliers de plumes de sarcelles. Vous voyez ce canard un peu ? De coqs, de pies, de faisans et d'oies. Et pour le coup, elle n'est pas allée chercher des oiseaux rares ou voilà, des oiseaux très communs pour avoir un maximum pour ses créations. Et du coup, ça donne des textures soyeuses et miroitantes qui donnent forme à des créatures énigmatiques. Je vous conseille le détour.
Et on refait un détour en direction de la Manche pour la suite de l'entretien sur les déplacements des animaux bipèdes que nous sommes.
Bah, et ça, c'est l'exemple moi, que je trouve hyper intéressant sur les effets de la militarisation des frontières. Parce que, en fait, on sent, je sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque de la jungle de Calais, il y avait les gens y passaient par camion.
Ouais.
Du coup,
je pensais que c'était toujours ça. Enfin, j'avais toujours cet imaginaire-là.
Eh ben non, là, ça c'est fini parce qu'ils ont dressé des murs, ils ont dressé des barbelés, ils ont enlevé tout un panel de d'aires d'autoroute. Enfin, les aires d'autoroute direction l'Angleterre avant n'existent plus. Le trajet sur cette autoroute, je l'ai fait il y a pas longtemps, est assez flippant. Il y a un truc genre ralentir risque de piétons et tu vois genre des gens qui marchent le long de la route, qui essayent de monter dans des camions. Mais la traversée par camion, elle se fait presque plus. Elle est beaucoup plus dangereuse.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est pour ça que les bateaux, ils ont commencé à exister. Et du coup, c'est toute la rhétorique du gouvernement français qui dit qu'il lutte contre les réseaux de passeurs. Mais en fait, c'est eux qui les ont créés.
Ouais.
Les gens, avant, ils passaient de manière autonome dans des camions. Mais sauf que là, ils arrivent au bord de la côte. Ils ont pas moyen, enfin, les gens n'arrivent pas avec des bateaux. Et donc, du coup, forcément, il y a des réseaux qui s'installent.
Ouais.
Enfin, et c'est aussi assez impressionnant le nombre de traversées qu'il y a eu là, ces deux dernières années. Enfin, ça a explosé. Toutes les mesures qu'ils ont beau faire, beau mettre, beau machin, en fait, les gens, ils continuent à passer, quoi. Et je pense que c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a, par exemple, il y a eu un... Moi, un truc qui m'a semblé hyper curieux, par exemple, il y a plein de personnes soudanaises qui avaient l'asile en France qui ont décidé de traverser. Et je pense que ça, c'est dû aussi au contexte ultra-raciste et islamophobe en France. Le jour où il y a eu une nouvelle ministre là-bas... qui était ultra raciste. Et le jour de son investiture, il y a eu un record du nombre de traversées. Ça, c'est, okay. Ça me fait un peu rire. Genre, il y a 1500 personnes qui sont traversées en une journée.
Ouais.
Enfin, quand il y a des fenêtres de beau temps, les gens, ils passent. On est sur le début du truc, quoi. Enfin, en fait, on a les gens au téléphone. Enfin, le début qui est même pas le début parce qu'il est aussi au terme d'un trajet hyper long. Mais du coup, nous, on les a vraiment pendant ce moment de la traversée. Juste après, il y a l'arrivée. Enfin, c'est le début de le début d'un long processus et qui s'améliore pas parce qu'en vrai, d'année en année, on voit de plus en plus de lois qui vont être ultra répressives pour les personnes sans papes. Du coup, ça va vraiment pas aller mieux.
Du coup, toi, tu fais ça dans le quotidien. Ça veut dire que t'as le téléphone. Tu réponds au téléphone.
Ouais, sur des créneaux bien précis que je choisis.
Ok.
Moi, à titre personnel, j'en fais à peu près 4 par mois.
Ok.
La journée, elle est découpée en 4 créneaux. Du coup, il y a la nuit, le matin, l'après-midi et le soir.
Ouais.
Et du coup, c'est des créneaux entre 7 et 9 heures, je dirais, à peu près. Et du coup, pendant ces créneaux-là, on répond au téléphone. On
cherche à mobiliser.
Ouais, on essaye de faire au mieux pour les personnes. On est dans le flou de, parce qu'il y a, enfin, plein de choses qu'on sait pas, en fait, ce qui arrive, que, il y a, ouais, on essaye de trouver des trucs. Du coup, des fois, c'est aussi faire des recherches dans les médias pour voir s'il y a eu des arrivées, pour voir s'il y a des choses qui peuvent se recoller. Il y a énormément de trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Enfin, Alarm Phone est loin d'être la seule antenne, quoi. Il y a vraiment plein de gens. Et du coup, ouais, c'est plein d'interlocuteurs différents.
Pour essayer le plus possible de transmettre les infos jusqu'à ce qu'il y ait la possibilité d'envoyer.
Ouais, ça, ou aussi. Nous, il y a toute une team dans l'Alarm Phone qui fait ce qu'on appelle le follow-up. Désolée pour encore plein de mots anglais, mais. C'est le suivi. Et en gros, c'est pour tout chaque cas, en fait, on essaie de faire un suivi parce qu'il y a plein de cas qu'on ferme en n'étant pas clair. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, il y a des personnes qui contactent les familles, qui essayent de trouver des réponses,
okay.
Qui font des trajets à la morgue pour identifier des corps. Et du coup, ça, c'est un travail de titan. C'est des gens... Et ouais, ça a l'air d'être un travail de titan. Moi, je ne fais pas partie de ces groupes-là, mais... De ce que j'en entends parler, c'est hyper prenant aussi parce qu'après, t'es aux prises avec le tu sais pas. Enfin, en fait, les gens, tant qu'ils savent pas ce qui s'est passé, ils peuvent pas s'imaginer que leurs proches sont morts.
On envoie plein de force aux familles qui ont perdu des personnes, aux personnes qui doivent traverser les frontières, à tous les soutiens qui se mobilisent pour accompagner ces traversées, ces recherches. Et des forces, on en trouve aussi en jouant. Alors, on continue d'alterner les registres. Et pour jouer, par exemple, on peut jouer Woke, bien sûr. Et c'est Anaïs qui nous raconte...
Ma deuxième découverte, donc, c'est la personne qui a créé le jeu Mariposa. Qui m'a fait découvrir les papillons monarques. Elle a aussi créé le jeu Wingspan, très beau. Il est empruntable dans nos médiathèques ludothèques. Il est à la chapelle, mais du coup, on peut le faire descendre. Voilà, pour les gens qui sont fans de jeux. Et elle a aussi créé un jeu sur les renards, un jeu sur les coquillages et un jeu sur les champignons. Donc voilà, déjà, je la trouvais super pour ça. Et en plus, eh ben, c'est une personne qui est assez impliquée pour parler de l'inclusivité dans le monde du jeu et qui a écrit des articles sur Internet là-dessus. Alors, je vais vous lire un peu des extraits. Alors, elle s'appelle Elizabeth Hargrave, je ne sais pas si je le prononce bien. Elle est américaine, elle était, je crois, consultante en santé ou quelque chose comme ça, mais elle aimait beaucoup jouer. Sauf qu'elle en avait marre des jeux de château, de médiévaux, quoi, des jeux avec des thématiques un peu très masculines, blanches, voilà.
Et donc, elle s'est dit, ben moi, je vais créer un jeu sur quelque chose que j'aime, et en l'occurrence, c'était sur l'ornithologie. Voilà, puis tous les autres qui sont venus derrière, elle a été bien reconnue dans ce milieu-là. Et donc, elle a, grâce à sa notoriété aussi, pu avoir l'espace, j'imagine, de parler dans les médias du monde du jeu. Et donc, moi, je l'ai trouvée sur le site d'une journaliste dans le jeu qui s'appelle Paul Gara, la journaliste, et qui le site c'est Le Point de Paul Gara, et elle aussi elle met l'accent un peu sur d'autres profils que des profils d'hommes blancs cis hétéros dans le monde du jeu. Donc voilà, Elisabeth Arquive. Du coup, elle a écrit des choses, mais surtout ce qu'elle a fait, qui est quand même un gros travail, c'est que elle a établi une liste. Alors, je l'ai regardée, je pense, comme ça, c'est peut-être de la stigmatisation de nom de famille, mais je pense que c'est quand même très américano ou anglophone centré, en tout cas. Mais elle a fait une liste de toutes les personnes, femmes et non-binaires, qui travaillent dans le jeu, enfin, qui travaillent, en tout cas, qui sont autrices de jeux, qui sont, voilà, qui ont des rôles un peu importants dans le monde des jeux. Et elle a fait aussi une liste des personnes racisées. Et du coup, pareil, je pense assez anglophone centré, hein, mais en tout cas, ça permet. Son idéal, c'était de permettre à des journalistes, bah, comme celle sur laquelle j'ai vu toutes ces infos sur elle, qui chercheraient à, voilà, à visibiliser d'autres profils, que ce soit plus facile de les retrouver. Voilà. Et puis, elle a fait tout un tas de, une série de tweets et de réflexions très pertinentes, qu'on peut lire en anglais sur le blog de Stonemaier Games. C'est du coup la boîte qui a publié son premier jeu. Et retrouver, je pense qu'elle a un blog. Du coup, elle a publié, suite à la publication d'une autre personne, d'un homme, qui avait publié une déclaration assez directe sur les inégalités. Et que elle a remarqué une tendance dans les commentaires. Elle dit « Chaque fois que l'un d'entre nous dit, d'une manière ou d'une autre, c'est difficile d'être une femme, slash une personne de couleur, slash une personne LGBT, plus dans le monde des jeux de société, il y a toujours des gens qui interviennent et disent, d'une manière ou d'une autre, c'est impossible, je n'ai jamais vu un joueur, éditeur, être sexiste, raciste, homophobe, etc. » Analysons cela. Voilà ce qu'elle nous propose. Alors, premièrement, elle dit, bon, quand votre voisin vous dit qu'il lui est arrivé un truc incroyable, vous lui dites pas, bah non, c'est impossible, vous le croyez, même si vous êtes très étonné. Donc, croyez les autres joueurs lorsqu'ils disent que des actes sexistes, racistes et homophobes, manifestes et intentionnels, se produisent bel et bien dans le monde du jeu. Après, elle va pas nous parler de ces choses-là. Je vous précise parce que c'est j'ai traduit avec un traducteur internet très bien, mais il y a des trucs qui sont pas hyper clairs, donc quand même. Et du coup, en gros, elle dit que elle veut pas parler de tous ces actes manifestes et intentionnels qui se produisent dans le monde du jeu. Elle veut parler de toute l'ambiance, en fait, de tout ce qu'il y a autour. Elle va pas s'attarder sur ces trucs-là. Donc elle dit « Tout le monde n'a pas vu ce genre de choses, mais si vous demandez autour de vous, vous entendrez sûrement des histoires incroyables. » Mais du coup, elle dit « Moi, c'est pas à ça que je pense quand je dis que c'est difficile. » Et là, elle nous montre un graphique qu'elle a trouvé dans la thèse d'une étudiante. Alors, c'est une thèse qui date de 2008, et cette étudiante, elle s'appelle Tania Pobuda. Voilà, elle a fait des beaux camemberts, hein, où on voit bien la représentation dans le monde du jeu des hommes blancs cis-hétéros, qui est énorme, évidemment. Voilà. Et donc, elle nous montre ce graphique, Elisabeth. Elle nous dit, ce graphique résume bien la situation. Parmi les 200 meilleurs jeux sur BGG, bon, c'est un truc de jeu, en 2018, 94% des concepteurs étaient des hommes blancs. Quand je partage ce graphique, il y a toujours quelqu'un qui pense que je dis « les éditeurs rejettent les femmes et les personnes de couleur par discrimination pure et simple. Est-ce que certains éditeurs agissent ainsi? Ben peut-être. Mais, tout comme je ne pense pas que des propos horriblement racistes soient tenus chaque semaine lors de la plupart des soirées-jeux, je ne pense pas que la discrimination flagrante de la part des éditeurs soit la meilleure explication à l'extrême déséquilibre de ce graphique. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est difficile? Soirée-jeu. Donc c'est toujours elle qui parle, hein. Quelle image vous vient à l'esprit si je vous demande de penser à un joueur de jeu de société typique? Alors là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Le hobby des jeux de ces sociétés se diversifie, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Si vous avez participé à de nombreux événements publics consacrés aux jeux qui ne réunissent pas principalement des hommes blancs hétérosexuels cisgenres avec beaucoup d'argent à dépenser, vous faites figure d'exception. Là, elle nous montre une photo. Bon, vous imaginez bien la photo. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un joueur de jeu de société typique se rend à un événement consacré aux jeux de société? Il est évident que les gens pensent que nous n'avons pas notre place ici. Les gens nous regardent fixement ou nous ignorent, car ils ne savent pas comment réagir. Ils sont peut-être tellement convaincus que nous n'avons rien à faire ici qu'ils nous demandent si nous cherchons le magasin d'à côté. Les femmes se font draguer, à plusieurs reprises, comme si notre seule raison d'être ici était de trouver un homme. Ou si nous sommes venus avec un homme, nous pouvons être complètement ignorés, comme si nous avions l'intention de passer des heures à le regarder avec amour. Les personnes transgenres sont victimes de mégenrage, les personnes LGBTQ sont considérées comme hétérosexuelles. Si nous parvenons à jouer un jeu, les gens nous traitent souvent comme si nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. Ils nous expliquent comment jouer notre tour et sont choqués et incrédules lorsque nous gagnons. Tout cela n'est peut-être pas intentionnellement méchant, mais cela a un impact. Dans ces espaces, entre guillemets, inconsciemment hostiles, je trouve vraiment étrange qu'il n'y ait aucune femme. Mon cerveau se demande alors ce qui va se passer. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a poussé toutes les femmes à partir et à ne jamais revenir? Chaque fois que j'écris à propos de ce sentiment, les gens m'ont répondu. Tu ne peux pas simplement passer outre, les gens sont bien intentionnés. En général, c'est possible. Et toutes les personnes que vous avez rencontrées qui sont des joueurs issus d'un groupe marginalisé ont absolument réussi à passer outre. Mais cela peut être épuisant. N'oubliez pas que beaucoup de gens doivent faire de même, passer outre, toute la journée au travail. Et ensuite, vous voulez qu'ils fassent de même pour s'amuser? Ce n'est pas drôle. Après, elle parle des jeux eux-mêmes. Tout comme un groupe de joueurs qui n'est pas explicitement méchant mais qui est loin d'être accueillant, les jeux de société eux-mêmes peuvent susciter les mêmes sentiments. Dans le top 100 des jeux sur BGG en 2018, lorsque l'on compte tous les personnages représentés sur les illustrations de couverture, 46% étaient clairement des hommes blancs, 20% étaient des animaux ou des extraterrestres et tous les autres représentaient le dernier tiers. Mais les couvertures ne sont qu'une représentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Si des femmes ou des personnes de couleur sont incluses dans un jeu, à quelle fréquence sont-elles représentées avec respect et autonomie? S'il y a des relations amoureuses dans un jeu, à quelle fréquence ne sont-elles pas entre un homme et une femme? Dans les règles, à quelle fréquence tous les joueurs sont-ils désignés par un thème plus inclusif que « ils » Pour beaucoup d'entre nous, ce manque de représentation devient une autre façon de dire « Oh, nous ne nous attendions pas à vous voir ici !» Les lacunes de chaque jeu peuvent être minimes et compréhensibles, mais elles s'additionnent pour former un schéma global épuisant. Donc, nous continuons à nous battre. Voilà. J'ai arrêté le texte là-dessus parce que je trouve ça assez fort, cette phrase-là. Et puis, elle va parler de la vie et comment... Donc, hors du jeu, juste qui dans la vie a du temps pour faire des jeux, voilà. Bon, vous imaginez bien la réponse, et voilà. Et à la fin, elle dit « Je veux que le jeu soit génial pour tout le monde. Je veux jouer à des jeux plus intéressants conçus par des personnes d'horizons diverses. » Voilà. C'était Elisabeth Hargrave.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, plus haut. Le cœur est un des miradors dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de faim.
Un dernier truc d'une route que je t'ai pas trop parlé, c'est enfin, la Tunisie. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était vraiment devenu terrible les conditions. Il y a de moins en moins de départs qui se font de la Tunisie. Mais en fait, quand les gens ils se font intercepter par les gardes-côtes tunisiens, ils se font mettre dans des bus. Et les bus, ils vont droit dans le désert, du coup, soit à la frontière avec l'Algérie, soit avec la frontière avec la Libye. Et de là, les gens, ils sont tabassés et laissés sans eau ni téléphone. Enfin, ils sont raquettés de toutes leurs affaires, sans eau, bouffe, nourriture. Et ils les laissent dans le désert, à des jours de marche de tout. Et en fait, il y a vraiment ce processus de... Et du coup, ça devient des monnaies d'échange à la frontière avec la Libye. Il y a des textes qui sont parus, là, de, du coup, des gens qui se font intercepter, qui se font amener à la frontière avec la Libye, qui se font échanger contre deux pick-up avec plein de gasoil dedans. Et hop. Et après, les Algériens, des fois, quand ils les prennent, ils les ramènent aussi à leur frontière du Sud. En fait, il y a vraiment beaucoup ce truc de... Les pays les ramènent toujours aux frontières du Sud, dans le désert, du coup, jusqu'au... Là, c'est le moment où ma géographie va être problématique, mais... de la frontière du Niger, je crois bien. Et du coup, c'est vraiment, mais des, enfin, c'est pas un petit phénomène, quoi. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont comme ça, ramenées, et aussi qui disparaissent parce qu'en fait, dans le désert, c'est terrible, quoi.
Tu parlais des commémorations, qui est un truc porté par Alarmphone.
Ouais, et pas que.
Et pas que.
Bah, la commémoration, c'est du coup, la compression entre l'action et la commémoration. Le 6 février 2014, il y a eu un massacre par les autorités espagnoles et marocaines à Tarajal. Et ils ont tiré sur des gens qui essayaient de passer la frontière, quoi. Des gens qui étaient dans l'eau, notamment, aussi. Depuis, le 6 février est un peu devenu une date de commémoration pour tous les morts et les disparus aux frontières. Et du coup, tous les 6 février ou les jours autour, dans plein de villes d'Afrique et dans plein de villes d'Europe, on organise des événements pour parler de la violence aux frontières, des morts, des disparus, prononcer des noms, ouais, les faire exister en tant qu'humains, quoi, que c'est pas que des chiffres comme ça. Et là, cette année, enfin, y a un peu la volonté de s'unir avec les réseaux Justice et Vérité. On a aussi envie que ce soit une date en commun pour dénoncer toutes les violences d'État. Et du coup, ça veut aussi dire des gens qui se font tuer par la police en Europe, mais ça veut aussi dire des gens qui se font tuer aux frontières de l'Europe.
Ouais.
Et du coup, un peu unir les voix des deux réseaux comme ça. Et ouais, c'est un moment qui est trop bien parce que ça permet d'allumer aussi des bougies pour penser à tous les gens qui sont disparus. Et ouais, de le faire exister dans l'espace public, c'est trop beau. Et nous, ça nous permet aussi de raconter un peu... Ben là, par exemple, le 6 février de cette année, il est arrivé après la tempête Harry qu'il y a eu en Méditerranée centrale, où il y a eu énormément de bateaux qui sont partis de la Tunisie. Ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas autant qui étaient partis. Et il y a, genre, en une semaine, il y a eu un truc estimé de 1000 morts. Il y a eu énormément de bateaux. Moi, je me rappelle, j'étais en shift à ce moment-là, et genre, il y avait un bateau qu'on savait qu'il avait fait naufrage, qu'il y avait une personne qui avait survécu, sur 51, ou à peu près, je sais plus combien de personnes. Et en fait, je fermais tous les autres cas en mode... pas clair, pas clair, pas clair. Et j'avais cette boule dans le ventre en me disant, mais en fait, c'est pas clair. C'est des gens, ils sont morts, en fait. Et ça, c'est arrivé des jours après, en fait. Quand il n'y a plus de nouvelles des gens et tout, en fait, on assume que ça a été des naufrages, quoi. Et du coup, ben, ce 6 février-là, on avait trop envie de parler de tous ces gens qui avaient disparu comme ça. Enfin, 1000 morts en une semaine. T'es en mode, mais c'est démon, enfin. Et du coup, de les faire un peu exister, quoi.
Ouais.
Et ça fait des trucs trop beaux, parce que ça fait que les camarades, ils nous envoient des photos du Sénégal, du Maroc, d'Allemagne. Enfin, en fait, on a les commémorations tous au même moment, et du coup, ça fait un truc de force aussi, quoi. Parce qu'il en faut aussi de la force pour tenir...
Ouais, juste pour vous dire que le morceau qui est passé juste avant cet entretien, c'était un vieux poème québécois qui s'appelle « Le cœur est un oiseau », que j'aime beaucoup. Merci aux collègues de l'émission d'avoir bien voulu partager. C'était une reprise par Mélissa Bédard, québécoise, incroyable. Merci pour elle.
Et voilà, on s'approche de la fin de l'émission. On voulait vous dire pardon pour les transitions cheloues. Il y a eu des changements de dernière minute, alors peut-être des fois ça fait bizarre. On voulait vous dire aussi à la COP 15 sur les espèces migratrices qui a commencé ce lundi 23 mars à Campo Grande au Brésil et qui doit mettre à jour la Convention sur la conservation des espèces migratrices. Leur projet, c'est d'éviter la disparition du monde dit sauvage, sérieusement en péril. Bon, là, c'est trop tard dans l'émission pour parler d'abolir le récit nature-culture Et trop tard aussi pour causer de la question des territoires, peut-être, dans une prochaine émission. En tout cas, la Convention sur la conservation des espèces migratrices, c'est la seule organisation internationale qui traite directement des espèces dites sauvages et qui peut interdire formellement l'abattage de certaines d'entre elles. Depuis sa création en 85, elle a permis d'aboutir à la protection de nombreux animaux et à des coopérations interétatiques pour préserver leurs habitats et les couloirs de migration. On vous mettra nos sources sur la page de l'émission. On vous souhaite un bon mois d'avril. On espère que vous avez passé une bonne émission. On vous envoie plein de force, particulièrement si vous avez des proches en zone de guerre. À bientôt. Vive les résistances, les tortues, le partage des richesses, les personnes exilées, les oiseaux, les queers, les rires et l'amitié.
Bye. Ciao.
On termine avec la dernière partie de l'entretien sur Alamphone. Merci encore pour cet entretien. La dernière partie nous parle encore de solidarité et on écoutera ensuite Soul King, Yaibari, je prononce mal, pardon. Bye bye.
Il n'y a pas longtemps, il y a une camarade du réseau qui m'a dit un truc qui m'a fait énormément de bien, où j'ai lâché, bah, c'était après cette tempête-là, qui m'a dit, mais c'est aussi nos morts et c'est aussi nos deuils, même si on ne les connaît pas. En fait, c'est aussi nos deuils, quoi. Et ça m'a fait trop du bien. J'ai tout lâché après, j'ai pleuré et tout. Ça m'a vraiment fait trop du bien parce que... Parce que ouais, en fait, même si on connaît pas ces gens, en fait, on a leurs photos des fois, on a leur voix au téléphone. Et du coup, ça fait un sacré truc. Et du coup, c'est sûr que il faut faire. En tout cas, nous dans l'équipe, on fait beaucoup de réunions, on débriefe des trucs. Débrief parce que c'est aussi des moments de stress, alors c'est aussi des moments où on n'est pas forcément agréable les uns avec les autres des fois, alors on essaye de l'être au maximum, mais des fois ça fait des situations de stress. Et du coup ouais, on essaye de prendre soin de notre petite santé mentale, tu vois. Ça me fait trop du bien de parler de cette tempête Harry, parce que en fait elle a existé en janvier, que c'est tout proche de nous et que en fait personne n'en parle aussi. Et du coup ça fait un peu comme partager ce truc que nous on est plongé dedans, mais qu'on est dans un petit microcosme, quoi. Que très sûrement en mai on va organiser là depuis l'année dernière, on organise un peu en réponse à des camarades de Dakar qui font ça depuis plusieurs années, un événement qui s'appelle Pushback Frontex et qui est les 72 heures du Pushback Frontex. Et du coup pendant 3 jours, parler de la politique européenne des frontières, de l'externalisation des frontières, de la politique des visas, de qu'est-ce que c'est Frontex. Et du coup, ça va sûrement se passer entre Grenoble. Peut-être il y aura un petit truc dans le Royaume, mais surtout à Grenoble. Okay. Pour se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe aux frontières, même si c'est pas joyeux, c'est un peu un truc de... En fait, il faut qu'on en parle. Si vous avez plein d'argent, n'hésitez pas à soutenir les initiatives. À l'Armphone, on est quand même... On a quand même pas mal d'argent parce qu'on est une grosse machine, mais il y a plein d'autres petits collectifs qui bouillent nos frontières et qui ont grave besoin d'argent, notamment les collectifs qui sont à la frontière à Dunkerque et Calais, que c'est trop bien de soutenir. Ah bah, un truc que j'ai oublié, c'est en fait à l'Armphone, nous on s'est inspiré d'un gars qui était un prêtre érythréen qui s'appelle le père Moussa Zeraï, qui genre, en fait son numéro il avait tourné dans les geôles libyennes, et en fait il a commencé à faire une ligne d'urgence tout seul en fait, et du coup lui il était, je crois, exilé en Europe, et du coup il répondait au téléphone, il contactait les gardes-côtes, et il a commencé à faire ce truc là avant qu'Alarmphone existe. Et du coup c'est drôle de voir aussi que les trucs ça se crée aussi des trucs qui arrivent, quoi. Et les commémorations, pareil, en fait, il y a à Zarzis en Tunisie, c'est une ville au bord de la mer. Il y a une plage où les courants font qu'il y a beaucoup les corps qui reviennent sur cette plage. Okay. Et du coup, il y a un pêcheur qui a commencé à prendre les corps et à leur mettre dans des sépultures, en fait. Et qui a fait comme ça le cimetière des disparus. Okay. Et du coup, c'est aussi une grosse inspiration de, en fait, juste pas laisser ses corps juste s'échouer sur une plage et leur donner une sépulture, leur redonner un peu, je sais pas, une existence digne, même après ce qui est arrivé, quoi. On n'a pas inventé j'allais dire la semoule, mais c'est pas ça qu'on dit. on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. C'est vraiment inspiré de gens qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Enfin, en fait, avant les bateaux ONG, il y a toujours eu des bateaux de pêcheurs qui ont sauvé des gens sur les routes. Et juste là, ça se professionnalise parce que c'est un phénomène massif, mais il y a plein de trucs de solidarité qui sont de plein de petits endroits, quoi.
Ouais.
Et, ouais, qui sont trop beaux.
Oui.
شايف لافونير غير في البور خويا لا في سي با فاسيل موغيغ او ميرسي تو سويسيد لا سي تا في كتو ساكريفي انا هنايا مرحمونيش نريسكي الموت باش نعيش يا العزيزة ما تبكيش كوم توا يونا دي ميني اللي زون ديجا اوبليي يا رايح تعيا وتولي خويا البحري Oh.